Il est 9h17 minutes. Eh bien, la pandémie a mis de l'avant plein de termes et de sujets dont on n'aurait peut-être pas parlé si elle n'était pas survenue, cette pandémie, entre autres la recherche sur les vaccins, les différents médicaments, etc. Alors, évidemment, il y a sans doute que ça arrive avec son lot d'avancées scientifiques. Et puisque la science a été au cœur de cette actualité, on va faire le point avec le scientifique en chef du Québec, Monsieur Rémi Quirion. Bonjour, Monsieur Quirion.
Oui, bon matin, Monsieur Lacroix.
D'abord, qu'est-ce que ça fait un scientifique en chef?
Oui, on a souvent cette question-là. C'est finalement conseil, le gouvernement, tout ce qui touche la recherche, la science, l'innovation au Québec. C'est certain qu'avec la pandémie, ben, ça a été un peu plus occupé.
Oui, mais ça prend quoi comme formation? Vous êtes scientifique, mais dans quel domaine, vous, précisément?
Moi, j'étais près de 30 ans à l'Université McGill, à l'hôpital Douglas. Donc, recherches, mon laboratoire était tout ce qui touche le cerveau, là, le suicide, la dépression, l'Alzheimer, toutes les choses le fun comme ça.
OK. Mais quand même, il reste que, bon, c'est pas loin de la vous avez des connaissances, en fait, en ce qui a trait à ce qui nous touche depuis un an. Est-ce que la pandémie est une, sur le plan scientifique, là, si on peut essayer d'y trouver un point positif, est-ce que ça peut avoir amené une certaine quantité de découvertes, de mieux comprendre comment, par exemple, fonctionnent les vaccins, comment fonctionnent les différents virus, etc.?
Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'à l'échelle internationale, là, au Québec, au Canada, mais globalement, collaboration entre chercheurs de différentes disciplines pour essayer d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, en science, on collabore toujours, là.
Oui.
Ça fait partie du jeu. Mais cette fois-ci, on l'a vu encore beaucoup, de façon encore beaucoup plus évidente avec ce qu'on appelle la science ouverte, là. Donc, les chercheurs qui mettent leurs résultats disponibles à tous, à toute la communauté des chercheurs à travers le monde, très, très rapidement. Donc, les équipes de chercheurs chinois qui ont cloné le virus ont mis la séquence disponible à tout le monde très rapidement. Ça a permis de comparer avec d'autres séquences à travers le monde. Même chose pour essayer du côté de développement de médicaments. Donc, énormément de collaboration, science ouverte. Et ça, on espère que ça va continuer après la pandémie, non?
Oui, c'est ça. Mais pour ça, on parlait tout à l'heure avec le docteur Leclerc qui, lui, aimerait bien que le Québec, je ne sais pas si vous avez entendu l'entrevue avec lui, mais lui aimerait bien, le docteur Denis Leclerc, qui est chercheur, microbiologiste, tout ça, qu'on crée une sorte d'institut au Québec là où on pourrait maintenir une base vaccinale là, de réagir plus vite quand survient une pandémie comme celle-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?
Oui, je pense que c'est globalement vrai pour le Québec, c'est vrai pour le Canada.
Oui.
On s'est rendu compte un peu partout à travers le monde, là, suite aux réorganisations de l'industrie, c'est pas seulement dans le pharmaceutique, mais dans plusieurs grands secteurs manufacturiers de concentration dans différentes régions du monde. Et là, on s'est rendu compte que peut-être qu'on n'avait pas les capacités de produire nous-mêmes des médicaments, des vaccins, tout ça. Donc, d'investir davantage en santé publique, tout ce qui est aussi production de médicaments, de vaccins localement, je pense que les gouvernements vont vraiment agir en ce sens-là. On a commencé, là, des investissements, par exemple, dans Medicago, ici au Québec. Mm-hmm. Là, il va falloir faire davantage encore pour s'assurer d'une production à long terme, là, d'être capable de réagir rapidement lorsqu'il y a des pandémies du type de celle qu'on vient de vivre.
Oui. Bon, évidemment, on parle beaucoup de la santé, mais il y a d'autres secteurs également qui ont quand même, où la pandémie a permis une certaine accélération. On pense à la technologie télécommunication, n'est-ce pas?
Oui, c'est certain que tout le domaine de tout ce qui est Internet, tout ce qui est domaine du web, utilisation de télémédecine ici au Québec, par exemple. Oui, on en faisait un peu, mais ça donnait vraiment une avancée énorme de ce côté-là. Donc, ça peut se faire et ça peut se faire bien et rapidement. Même chose aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle, application de l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs. Donc, on a vu des avancées comme on en a déjà vu dans le passé, là, suite à des événements très dramatiques comme les guerres, par exemple, mais que du côté technologie, ça a permis le développement de nouvelles technologies. Dans le domaine de la santé, dans le cas de cette pandémie, mais dans plusieurs autres secteurs aussi.
Oui. Entre autres, si on a les avions qu'on a aujourd'hui pour transporter des passagers, il y a beaucoup de développement qui s'est fait pour l'armement de guerre, entre autres choses, pour le domaine militaire. Alors, parfois, ça amène...
Et même l'exploration lunaire, là, au début des années 60, ça a permis le développement énorme du côté satellite, du côté informatique et tout ça. Donc, ces grands investissements-là dans des domaines qui sont plus du côté militaire. Je dirais, on pense pas nécessairement qu'il va y avoir des impacts dans la société en général, mais très souvent, ça amène des nouvelles découvertes qui sont utiles un peu pour tout le monde.
Et à contrario, est-ce qu'il y a des secteurs scientifiques, par exemple, où la pandémie a tellement monopolisé de moyens et d'efforts qui ont subi des reculs, à votre avis?
Ben c'est une question très importante aussi. Et on regarde ça, par exemple, au Fonds de recherche du Québec. Là, moi, je dirige aussi les Fonds de recherche du Québec avec le titre que j'ai maintenant.
Oui.
Mais c'est certain que la recherche clinique, là, des essais de nouveaux médicaments, nouvelles façons de faire en recherche clinique, hors secteur COVID, si on veut, là, ça a été certainement ralenti. C'était plus difficile d'avoir accès, par exemple, au groupe de patients qui étaient presque, qui se portaient volontaires là, pour des nouveaux médicaments contre le cancer ou les maladies cardiaques. Mais c'était quand même beaucoup plus difficile à cause de la pandémie de poursuivre ces études-là. Donc, certainement que là, il y a eu des impacts. On l'a vu un peu là en termes de chirurgie dans les hôpitaux, des ralentissements de ce côté-là. Mais c'est vrai aussi du côté de la recherche clinique. Donc, il va y avoir là, du rattrapage à faire de ce côté-là.
Est-ce que nos décideurs, les politiciens, tout ça, sont suffisamment sensibilisés à l'importance de cette recherche-là? Parce que on nous a dit que souvent, quand tout va bien, quand il n'y a pas de pandémie, on a tendance à mettre de côté l'importance que peut avoir la recherche quand on n'a pas les deux pieds dedans, là, quand on n'est pas dans le problème en tant que tel.
C'est certain que la pandémie, on a vu la science ici au Québec avec Dr Arruda, avec le premier ministre presque à tous les jours. Donc la science a été beaucoup plus à l'avant-scène sur la place publique et la santé publique en particulier. Et ça, peut-être qu'on avait eu tendance à la délaisser un peu partout dans le monde là, au cours de la dernière décennie. On s'est dit, bon, ben, on n'a pas vraiment besoin de ça, là, des experts en virologie, des experts du côté vaccin. On a les vaccins dont on a besoin. On n'a pas besoin nécessairement d'en trouver d'autres. Mais là, on s'est rendu compte que c'était des erreurs et qu'on devrait investir davantage à long terme en recherche en sciences. En recherche, on n'est pas dans le court terme, on est toujours le plus long terme. C'est toujours ce qui est un peu compliqué là au niveau investissement public et même, je dirais, investissement privé. Le retour, entre guillemets, le retour sur l'investissement, ça peut être à très long terme.
Ouais.
Mais on doit maintenir une base de financement solide dans tous les secteurs parce qu'on ne sait pas demain matin, la prochaine grande catastrophe va venir d'où. Là.
Ouais.
On peut penser aux changements climatiques, par exemple, qui vont toucher énormément de secteurs. Là. Donc, il faut vraiment poursuivre les investissements importants en recherche et innovation partout au Québec, au Canada et dans le monde.
Comment vous avez réagi, vous, au cours de l'année, quand vous avez vu quand même qu'il y a une certaine part de désinformation sur les découvertes scientifiques qui ont été très, très répandues par les médias sociaux, entre autres choses? Il y a beaucoup de gens, de négationnistes de la pandémie, des gens qui souvent disaient que les recherches scientifiques n'allaient pas dans le bon sens, que la vaccination, c'était pas bon, etc. Vous, comme scientifique en chef, quand vous voyez toute cette désinformation qui vient souvent de conspirationnistes, vous réagissez comment?
C'est certain que ça existait déjà avant la pandémie, mais c'est énorme. Le mouvement s'est magnifié beaucoup avec cette pandémie-là. Là. Et les réseaux sociaux, comme vous avez dit, finalement, c'est facile de faire passer toutes sortes d'informations. Là. Donc, je pense que là, il y a du travail à faire pour nous, pour les chercheurs, d'être un peu plus présents sur la place publique, d'expliquer davantage ce qu'on fait, d'expliquer surtout la méthode scientifique. C'est, comme je disais, c'est pas nécessairement du court terme, c'est pas le résultat d'aujourd'hui. On construit sur plusieurs expériences avant de dire oui, c'est ça qu'on doit faire. Et ça, peut-être que plusieurs personnes comprennent mal cette méthode scientifique-là. Et aussi, on devrait, nous, essayer, en termes de chercheurs, de mieux comprendre le phénomène de la désinformation. Ça part d'où? Et qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour peut-être diminuer l'impact de tout ça? Parce que si on pense aux vaccins, là, peut-être qu'on peut dire, ben moi, je veux pas me faire vacciner, mais à un moment donné, on fait partie d'une société, ça devient un peu, là, c'est un peu le bien commun, on doit avoir un sens civique pour dire, ben, faut que je me fasse vacciner parce que je vais protéger mes voisins de cette façon-là.
Oui. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur les recherches sur le cerveau, entre autres la maladie d'Alzheimer qui vous intéressait particulièrement, là. Et qui intéresse un paquet de chercheurs au Québec, d'ailleurs. C'est un des endroits au Québec où il y a une recherche importante qui se fait là-dessus. Est-ce que ces domaines-là ont souffert du fait qu'on a concentré à peu près tous nos efforts sur un seul sujet scientifique au cours de l'année. Il y a même beaucoup de gens là qui des professionnels qu'on a à qui on a demandé de travailler particulièrement dans le secteur de santé, etc. Est-ce que des secteurs aussi importants de recherche comme l'Alzheimer, comme d'autres maladies dégénératives, tout ça, ont souffert de cette concentration sur la pandémie?
Je pense que, surtout comme on a discuté il y a quelques minutes, du côté des essais cliniques, de nouvelles approches de traitement de ces maladies-là, ça peut être des différentes formes de cancer, mais ouais, certainement aussi du côté des maladies neurodégénératives, des études cliniques en cours, ça a été ralenti à cause de la pandémie. Donc, il faut maintenant s'assurer là qu'on continue à investir, oui, pour trouver des façons de traiter la pandémie COVID, mais on ne doit pas négliger les autres secteurs. C'est ce qu'on a fait au Fonds de recherche du Québec. On a décidé de continuer le financement dans tous les secteurs, sans privilégier un secteur en particulier, très, très, très important. Et là aussi de l'annonce là, du ministre des Finances en termes de reprise économique, des financements additionnels pour les fonds de recherche du Québec qui ne sont pas ciblés sur la COVID, là. Parce que c'est important d'investir, de continuer à investir dans tous les secteurs, incluant les maladies neurodégénératives, le cancer, les maladies cardiaques, etc.
Ben écoutez, j'espère que... Quelle sera votre recommandation principale à l'issue de cette année assez particulière au gouvernement?
Ben, je pense comme on dit souvent, on voit un peu de lumière au bout du tunnel là, avec les vaccins. On est quand même chanceux d'avoir plusieurs vaccins contre la COVID, ça c'est très, très, très bien. Mais on n'est pas encore, c'est pas terminé, on le voit avec le nombre de cas chaque jour, là. Mm-hmm. Donc, on connaît quand même la recette pour l'instant, là. C'est peut-être pas nécessairement toujours plaisant, mais se laver les mains, la distanciation sociale, diminuer les contacts, c'est ce qu'il faut continuer à faire, là, pour les prochains mois afin de réussir à s'en sortir de cette fameuse pandémie.
Monsieur Quirion, merci d'avoir été avec nous.
Merci bien.
Au revoir. Rémi Quirion est le scientifique en chef du Québec. Eh bien,